Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Conny.
Yo.
Salut Pascal, salut Dan.
Salut les gars.
Ça va et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet, les questions que parfois on est nombreuses et nombreux à se poser dans notre coin. Ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram ou en vous inscrivant à notre newsletter. Vous pouvez nous soutenir, si vous le souhaitez, en mettant 5 étoiles dans l'appli de podcast avec laquelle vous nous écoutez, en laissant des commentaires, parce que pareil, ça nous permet d'augmenter notre visibilité. Ouais. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Alors là, je viens de recevoir un message sur Instagram d'une jeune femme qui nous dit que suite à l'épisode de la hotline sur la contraception masculine, elle a partagé l'épisode à la personne avec qui elle est en ce moment pour aborder le sujet.
Je pense
que c'est une très bonne manière de partager autour de vous si vous sentez que quelqu'un de votre entourage a besoin de s'éclairer sur un sujet. On en a fait 150, donc vous avez de quoi partager.
Pour ouvrir au dialogue avec vos proches.
Voilà, pour ouvrir au dialogue, c'est un très bon moyen. Et puis ceux qui veulent vraiment nous soutenir avec des moyens financiers, ceux qui ont un revenu.
Ils peuvent faire un gros virement sur Tipeee, idéalement de plusieurs milliers d'euros. C'est l'idéal.
C'est l'idéal pour la Porsche de Dan. Voilà.
Mais après, on peut aussi commencer plus bas.
Voilà, pour l'instant, si vous voulez participer à l'aventure, faire partie un peu du podcast avec nous, ou du développement du podcast en tout cas, et que vous adhérez un peu à nos valeurs, voilà, vous pouvez aller faire un don sur Tipeee. Ça peut être un don ponctuel ou un don récurrent. Le don récurrent,
encore plus sympa.
Une grande preuve d'engagement.
C'est un amour renouvelé tous les mois.
Ça nous permet quoi? Ça nous permet de développer un peu plus le podcast, de se développer en région comme on l'a fait à Lyon. Et on espère des temps meilleurs pour pouvoir continuer.
Bah oui, Los Angeles. On
parlait de la francophonie, on parlait de Papété la dernière fois.
Oui, c'est vrai. Tahiti, let's go.
Voilà, développer des projets comme Don't Swipe, des illustrations, etc., etc. Et il y a des contreparties.
Il y a des contreparties, c'est important de le rappeler. Quand vous êtes tipeur, vous recevez l'épisode donc en exclusivité la veille de la publication officielle. Donc, vous êtes un peu un privilégié. Et vous êtes encore plus privilégié parce que vous avez le droit à des épisodes bonus exclusifs, enfin plutôt des bonus, quoi.
Oui, des petits bonus. Ouais,
des petits bonus, mais qui sont quand même assez exceptionnels. Moi, j'ai écouté le dernier, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment.
C'est chouette, moi aussi.
Moi, je vous conseille vraiment de donner parce que là,
petit bonus audio qu'on fait pour les tipeurs. Et puis
on vous attend sur la page Tipeee.
À venir. Ouais. Voilà, merci. Aujourd'hui, dans l'épisode un peu spécial, on va recevoir France.
Hello
France.
Et on va parler de ton livre qui est sorti, qui s'appelle Nos cœurs sauvages.
Ouais.
Donc tu peux nous pitcher un petit peu le livre rapidement, de quoi ça parle?
Alors en fait, ce livre est parti d'un constat de célibataire, c'est-à-dire que moi-même étant célibataire et ayant autour de moi que des potes célibataires, je me suis rendu compte que c'était quand même un constat de plus en plus grand, qu'il y avait de plus en plus de gens célibataires autour de moi et qu'on n'était pas juste des petits pèlerins avec notre bâton et quelques brebis, on était plusieurs. Et je me suis dit, pourquoi en fait on est tous célibataires? Et donc j'ai voulu essayer d'écrire un livre pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait foiré dans notre quête de l'amour.
Ah mais du coup tu parles déjà de foirage, donc d'après toi le célibat c'est un foirage?
Voilà, et donc non, en fait... C'est ça, en faisant l'enquête, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une chance inouïe d'être célibataire.
Chance incroyable.
Voilà, par rapport à tous les couples que je rencontrais. Et qu'en fait, c'était un moment de vie très important et qu'il fallait absolument qu'on apprenne à le prendre en main et à comprendre tout ça plutôt que de le subir.
Quand tu dis il y a de plus en plus de célibataires, c'était purement empirique autour de toi ou c'est une réalité sociologique ?
Voilà, donc c'est une réalité sociologique. Aux États-Unis, depuis 2014, il y a plus de personnes qui vivent seules dans un foyer seul qu'en couple. Il y a plusieurs villes au monde maintenant, donc évidemment au Japon, en Chine, il y a énormément de célibataires. Donc les chiffres grandissent de plus en plus et surtout depuis 10 ans. Donc il y a un vrai constat et donc les États-Unis, premier pays de l'histoire à rentrer dans la vie seule, c'est-à-dire qu'on ne vit plus en tribu ou en famille, on vit seul. Voilà, c'est un constat sociologique depuis 2014.
Seul ou avec son chien à Los Angeles.
Alors beaucoup de chiens, un ou plusieurs chiens, voire des chats aussi, si possible, qui dorment dans ton lit. Voilà.
D'accord. La question qui se pose dans la première question qu'on va se poser par rapport à ton livre et à cette question célibat, c'est la question du choix en fait. C'est une question centrale. Comment se pose la question du choix du partenaire ou le choix de l'amour ou le choix pour tous ces célibataires?
Alors en fait, c'est vrai que depuis 3 générations, on se rappelle de nos grands-parents qui se mariaient à 18-20 ans et qui se mariaient la plupart du temps avec leurs voisins de palier. Donc il y a une étude qui a été faite dans les années 20 à New York qui démontre bien que je crois que 6 personnes sur 10 à peu près se mariaient avec quelqu'un qui était dans les 4 blocs aux alentours. Donc on se mariait, on n'allait pas chercher loin. Souvent, c'était quand même la famille qui devait donner son aval. Et en 2 générations, on est passé de son voisin de palier à une étendue de possibles infinies, puisque maintenant, avec Tinder, on peut matcher quelqu'un en Irak ou à l'autre bout du monde, et on a accès à des millions et des millions de profils. Et donc, c'est vrai que ce choix, il peut être bien, dans le sens où on se dit, c'est génial, en fait, on progresse avec la société, de plus en plus libérale, on a de plus en plus de choix. Donc, en fait, c'est une forme de liberté, mais c'est aussi restrictif, parce qu'on se rend compte que plus on a de choix, et moins notre choix définitif est et satisfaisant. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs études ont été menées, notamment l'étude de la confiture que je cite dans mon livre, qui est assez connue, qui a été faite dans les années 2000, où on a mis des confitures dans un supermarché, et quand il n'y avait que 6 pots de confiture, les gens choisissaient plus rapidement, mais étaient plus contents de leur choix que quand il y avait 24 pots de confiture. Donc 24, imaginez de le multiplier au nombre de profils qu'on peut matcher sur un site de rencontre. Et ça, c'est d'ailleurs pas de la faute des sites de rencontre en soi. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment se marier avec n'importe qui. Mais par contre, c'est vrai que ce choix, il est très difficile à restreindre.
Trop de choix, tu le choix. Donc c'est ça un peu ta théorie. On a trop de choix et du coup, on a d'une part plus de mal à choisir. Et une fois qu'on a choisi, on n'est pas content du choix qu'on a fait.
Voilà, alors ça s'appelle le syndrome Starbucks. Donc c'est-à-dire quand on va au Starbucks, il y a à peu près 600 combinaisons de café possibles. Entre le ristretto, macchiato, spicy, pumpkin. Et encore, quand on est aux États-Unis, il y en a encore plus qu'en France. Et donc parfois on peut mettre, alors soit on prend son latte habituel au lait d'avoine, mais c'est vrai que parfois si on veut vraiment choisir quelque chose de satisfaisant sur l'instant, on peut hésiter pendant des heures, des jours. Il y a même d'ailleurs des pages Wikipédia pour vous apprendre à choisir votre café sur Starbucks. Donc c'est un peu pareil avec le choix d'un partenaire, c'est que plus on choisit, plus on prend du temps, plus on a de chances d'être frustré. Alors la plupart du temps, on finit par ne pas choisir quand il y a trop de choix. Donc ça, c'est avéré. D'ailleurs, il y a des supermarchés aux États-Unis qui enlèvent des produits de leurs étagères maintenant parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de choix et donc que c'est pas...
Mais appliqué au célibat, ça veut dire que tu penses qu'il y a des personnes qui sont célibataires parce qu'elles sont saoulées d'avoir à choisir. Elles se disent, bon, trop de choix, vas-y, je préfère rester tout seul.
Alors, je pense que c'est pas... conscient, c'est-à-dire que évidemment que non, en fait, ça prouve plusieurs choses. Ça prouve que un, on a du mal à s'arrêter sur un profil parce qu'on parle un peu avec tout le monde et on dit, on envoie 3 phrases et en fait après on se lasse assez rapidement et on a du mal à s'engager dans et en choisir un. Il y a d'autres études qui ont prouvé qu'il faut quand même 3000 matchs pour avoir quelqu'un en face de soi assis à un date.
Matchs.
Ouais. Donc,
attends, 3000 matchs, pas 3000 swipes. 3000 matchs.
3000 swipes.
Mais même ça risque.
Excuse-moi, 3000, je pensais swipe, j'ai dit match, mais
d'accord.
Oui, 3000 swipes.
Il faut swiper
3000. 1h40 de swipe intempestif. Donc, ça, bon, c'est des mathématiques un peu aléatoires. Hein,
qui ont été fait. 1h40, c'est pas non plus hyper long, quoi, dans un sens. Bon, tu te dis 1h40 de swipe pour un date.
Alors, ça, c'est juste les swipes, mais après, il faut parler.
Oui, il faut parler, c'est vrai.
3000 swipes.
Non, mais c'est un film. 1h40, non, c'est un film.
C'est un film. Donc, soit tu regardes une série ou un film, soit tu swipes.
Soit tu swipes, quoi.
Mais ça fait 3000 personnes.
Ben oui, non, mais ça, c'est.
C'est le super. Enfin, tu parles de supermarché, je trouve ça intéressant comme.
Tu veux dire qu'il y a autant de gens, c'est-à-dire que pour swiper 3000 personnes. Et en plus, quand.
Pour avoir vu 3000,
tu parles de. Tu parles de swipe peu importe ou de swipe positif?
Alors ça, c'est toi qui choisis, mais évidemment donc, positif, juste, puisque si tu dis non, de toute façon, tu ne pourras jamais avoir accès à cette personne.
Ah,
donc,
oui, c'est
enfin, c'est plutôt oui. Il faudrait que tu fasses oui tout le temps.
La vache.
Et donc, évidemment, c'est donc 1h40. Et puis après, donc, c'est une personne en face de toi. Donc après, ça veut dire que combien de personnes en face de toi... tu vois, en général, sur 10 dates, tu en as 2 qui sont... bien, enfin je sais pas quel est votre je sais pas, non mais
pas d'appli, désolé, pas d'appli, pas d'appli, donc je...
Depuis milieu, il est marié depuis 85.
Ah oui, je me disais,
donc,
ouais.
Donc tu vois, il a pas connu...
Il a été conservé dans du formol, voilà.
C'est ma fête aujourd'hui.
C'était avant l'invention d'Internet.
Avec les invités qu'on a reçus, et avec qui on a parlé de réseaux sociaux, j'ai eu la sensation qu'en fait, la question du choix aussi se posait quand elle rencontrait quelqu'un. Elle se dit, ouais, il est bien et tout, mais en fait, j'en ai d'autres derrière. Et du coup, on a beaucoup parlé d'engagement ici, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans le podcast, la question de l'engagement, la question de la rencontre semble relativement faisable pour tout le monde. Par contre, la question de l'engagement, c'est une autre paire de manches. Et, ouais. Et du coup, je pensais par exemple à Louisa qu'on avait reçue à l'époque, c'était il y a quelqu'un d'autre derrière, en fait. Et ce choix fait que l'engagement est plus compliqué parce que tu as un plan B, si ça se trouve le plan B, il est vachement mieux.
Exactement. Alors aux États-Unis, ils font ça très bien. C'est-à-dire que quand on date, on a le droit de dater plusieurs personnes en même temps, jusqu'à la fameuse question où on doit se dire on est en couple officiel. Et ce talk qui peut arriver au bout d'une semaine ou au bout de 10 ans.
Dans le bouquin, tu en parles et tu es précise sur le calendrier.
Ah, il y a un calendrier très très précis.
C'est genre 3 dates ou c'est...
Non, le talk qui peut arriver, en fait, c'est le... Le bisou doit arriver au deuxième, tu peux rapprocher les corps au quatrième.
Le bisou arrive avant le talk.
Et en fait, le talk, t'as une période de 1 an à 10 ans sur lequel le talk doit arriver.
Et le bang arrive avant le talk.
Le bang, c'est le quatrième date.
Ah, le bang, c'est le...
C'est avant le talk.
D'accord. Vous appelez ça comme ça, le bang. Oh, c'est mignon.
C'est notre petit mot pour appeler ça.
C'est quoi ce truc très codifié? Tu peux nous raconter juste une seconde et à quel point ça s'applique en France?
Alors, pour l'instant, ça s'applique pas tellement en France, et c'est pour ça que je pense qu'on a été aussi perdu avec le dating, puisque ça a été quand même inventé aux États-Unis. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils ont déjà ces règles de base. Je sais pas si vous avez vu Sex and the City, quand vous étiez plus jeune. Donc, ils ont des règles qui sont très claires. Qui sont bien parce qu'en fait, dans un sens, elles évitent. Oui, elles sont tacites, mais bon, enfin, tu vois, c'est les règles de la drague, de la courtoisie de base.
D'accord.
Comme nous, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était l'homme qui devait payer la première bière, tu vois. Bah, eux, ils ont toutes ces règles de dans la durée et surtout pour éviter d'avoir trop de sentiments au début. Alors, nous, quand ils parlent de nous, les Français, ils disent mais vous êtes complètement malade, vous faites des déclarations enflammées au bout d'une semaine, ça prouve que vous avez vraiment un problème psychologique. Ils nous voient vraiment comme des gens pas stables émotionnellement.
Oui, c'est mais après, tu prends l'exemple des Américains qui sont des hyper rationnels.
Non, mais alors, oui.
En tout cas, c'est comme ça que.
Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se rassurent. Ouais.
Ouais,
c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que ça résonne avec énormément d'invités qu'on a eus.
Tout à fait.
Il y en a qui s'enflamment et en fait, ça se casse la figure. Il y a quelque chose à leur dire à ces personnes.
Ben, ne vous enflammez pas, faites les techniques américaines. Hein, parce qu'elles marchent très bien. Vous voyez, 3-4 personnes en même temps. Non, mais
attends,
c'est vrai.
Attends. Comment tu peux dire elles marchent très bien et en même temps, quand tu
dis que les Américains,
ils sont le maximum célibataires, voilà. C'est que ça marche
alors,
pas si bien
non,
que ça.
Non, voilà. Donc, moi, je pense. Alors, je pense que ça, en tout cas, marche dans un. Enfin, avec le contexte actuel, qui est exactement le même contexte, par exemple, c'est horrible, mais on fait toujours des parallèles avec le boulot. Mais tu vois, aujourd'hui, on est tous au chômage, on est tous en emploi freelance. Bah, c'est pareil, envoyez un maximum de CV, tu vois, j'ai envie de dire. N'essayez pas trop. Non, n'essayez pas trop de retenir vos CV chez vous. Ne faites pas de la rétention de CV, quoi. Et ben là, c'est pareil. Essayez quand même de rencontrer des gens, rencontrer un maximum de gens et faites l'effort de le faire parce que moi, je vois plein de gens qui n'arrivent même plus à faire cet effort-là, puisqu'il y a aussi ce problème du choix. Quand le choix devient trop important, on essaye un petit peu et puis on se dit « Ah non, celui-là, il est vraiment pas assez bien pour moi » ou « Il y a mieux » ou « On n'essaye pas ». Alors eux, ils conseillent aux États-Unis, par exemple, de se voir pendant une journée pour un premier date. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je faisais.
Une journée complète.
Une journée complète. Donc, ah ouais. Tu vas le matin, tu prends ton café, tu déjeunes. Et c'est vrai que prendre le temps aussi, c'est important. Donc, on n'est pas obligé d'être dans la surconsommation, évidemment. Mais c'est vrai que de voir deux ou trois personnes en même temps au début, en tout cas, sans s'engager.
Tu dis que c'est une bonne chose de voir plusieurs personnes à la fois.
Pas d'être polygame, mais enfin, chacun son truc, tu vois, je pense
non,
que...
Non, mais en tout cas, c'est pas... Enfin, si demain, une fille, je pense par exemple à certaines des invités qui peuvent dire, bah ouais, mais le mec, il me voit moi et il voit une autre meuf et il voit encore quelqu'un d'autre.
Mais c'est au début, ça.
Au tout début. Je parle avant le bang. Ouais, mais...
Ah, tu parles avant le
début.
Bang.
Ouais. C'est codifié.
Je parle d'avant bang. Ouais, voilà. Okay.
Enfin, alors, des fois, le bang peut avoir déjà eu lieu, mais c'est vraiment le début, quoi.
Au début, en tout cas, voilà. Enfin...
La question de l'exclusivité, elle se pose pas
elle
au moment du choix.
Bah, le et choix
donc,
se
pour
pose.
Eux, alors, par contre, eux, le problème, c'est que du coup, ils s'engagent jamais et ils continuent. Ils ont la personne du lundi, la personne du mardi, celle du mercredi. C'est très pratique, tu vois. En fonction de ces jours aussi. Oh, bah, aujourd'hui, bah, je me sens un peu dans un mood de voir un mec qui fait de la vidéo de skate. J'adore les skateurs. Je me sens un peu aventurière aujourd'hui. Tiens, je vais voir mon skateur. Demain, oh bah tiens, je vais voir mon financier parce que j'ai plus trop de thunes sur mon compte, donc ça serait bien qu'il m'invite. Non, voilà, j'exagère un peu, mais bon, tu vois. Donc oui, alors après, le problème, c'est quand ça devient un truc complètement narcissique qui est juste en fonction de tes besoins personnels, tu vois, qui...
Ah tiens, c'est le financier qui appelle.
Bah, le financier est là, hein, oui, j'espère qu'il vient, il vient mettre de l'argent dans la cagnotte.
Pascal a un tout nouveau téléphone, il faut l'excuser.
Je sais pas comment, attends.
C'est le financier qui veut ouais, mettre dans le Tipeee, là.
Sonnerie est très, très jolie, très bon choix.
Merci.
Et du coup, la place du naturel n'existe plus. Est-ce que ça a un impact? Parce que nous, on a l'impression qu'on l'utilisation des dating et tout est un peu plus naturelle. C'est-à-dire, comme c'est moins codifié, qu'il y a plus de sentiments et tout. Est-ce que, où est la place du naturel là-dedans?
À quel niveau, c'est-à-dire?
Ben, disons que si on se dit qu'une relation amoureuse, ce qui est quand même le but de tout ça, il doit y avoir quelque chose de naturel, tu vois,
ouais.
Pas préparé, de
pas préparé,
spontané.
Merci, ouais. Chercher le mot. De spontané, tu vois, où est la place de la spontanéité pour éventuellement faire naître quelque chose?
Non, et c'est vrai que tu vois, par exemple, avec le Covid, typiquement, comme maintenant on peut juste dater chez l'autre, c'est très compliqué parce qu'on est tout de suite dans une intimité hyper forte. On est obligé d'inviter la personne chez soi. Mmh. Et à la fois, ça peut être très bien parce que du coup, on est obligé de tout montrer tout de suite. Mais il y a quand même aussi le risque de pas aimer cette personne et de la se retrouver avec elle dans son canapé et de pas pouvoir... Donc oui, en effet, le spontané, c'est hyper important. Mais ça, en fait, justement, il faut le creuser. Tu vois, en fait, tu peux pas connaître une personne en deux secondes. Et ça, c'est que à force de voir la personne plusieurs fois que tu peux vraiment... En fait, alors, il y a une autre, moi, que j'adore, une autre théorie, entre guillemets, donc scientifique, qui dit que quand on tombe amoureux, on perd une partie de notre cerveau cognitif et on ne voit plus la personne telle qu'elle est. Pendant 3 ans. Donc en fait, quand on dit bec bédé, l'amour dure 3 ans, en fait, c'est cette étude-là qui dit pendant 3 ans, on ne voit plus la personne rationnellement. Donc c'est pas mal l'américain parce qu'il va te dire attention, ne désactive pas cette partie cognitive de ton cerveau où tu vois plus l'autre de la bonne manière. Et tu peux le voir avec. Moi, j'ai des comiques qui s'enflamment parfois sur des profils de mecs. J'ai envie de leur dire excuse-moi, mais là, il faut se calmer, quoi.
Attends. T'as des copines qui s'enflamment sur un profil?
Non, sur un profil.
Sur
enfin,
une
ce
que personne
je veux dire,
qui rencontre.
Personne qu'elles rencontrent, ouais. Qu'elles ont vu 2 fois, tu vois. Ou des copains, d'ailleurs.
D'accord.
Non, mais cette question-là de la projection, on l'a déjà abordée d'ailleurs dans le podcast, mais elle est hyper intéressante, quoi. C'est vrai que de se dire à quel moment, en fait, quelle est la part de projection dans ta vision de l'autre et quelle est la part de l'autre vraiment, quoi.
C'est ça, et c'est vrai que ce problème un peu des applis, bon, moi je trouve ça super, hein, les applis, je suis pas du tout contre. Ce problème des applis, c'est qu'on est réduit quand même à un profil, et surtout on projette une espèce d'attente narcissique de l'autre. C'est-à-dire, on se dit qu'on veut un mec. Alors par exemple, sur ton profil, on va voir Dan, il met des sweats bleus, il a l'air un peu beau gosse geek, il a un peu une barbe de 3 jours, plutôt 3 mois. Bon, bah tu vois, je projette une image, je me dis, et en fait,
c'est un bûcheron, machin.
Ouais, j'ai envie de te mettre dans une case, tu vois. Je me dis, attends, la case, c'est
putain,
quoi?
Il a l'air hyper musclé, en plus, c'est
des
ouf.
Trucs de nerd.
Plus, hyper intelligent,
hyper
non mais
baraque,
c'est incroyable.
Il doit aller faire de la muscu tous les jours, tu vois.
Alors et qu'en après, fait, tu vois, tu dis, merde, pas du tout.
Oh là là, le mec n'a jamais fait de muscu de sa vie. Ouais. Voilà.
Et alors, moi, c'est marrant que tu dis ça, parce que on se l'est dit, je leur disais hors micro. Moi, je pense que le problème de l'insuccès des relations liées aux applis de rencontre est lié à cette déception. C'est-à-dire que tu as un profil sur lequel tu te mets le mieux possible, tu mets les plus belles photos, tu mets ton plus beau suite, et effectivement, par exemple, Dan, on peut se dire, il fait de la muscu, machin, et en fait, quand on arrive,
il fait pas de muscu.
Et du coup, le point de départ de la relation, en vrai, c'est une déception.
Ouais.
Et du coup, je me dis, c'est peut-être plus difficile de partir de ça, parce que c'est comme le coup du Père Noël, en fait. Tu dis, ça existait pas, ouais. Quoi, je me suis trompé.
C'est exactement
Et après, c'est une question dont on a parlé, puisque Dan me disait après qu'effectivement, tu peux être déçu après une rencontre en vrai où tu es déçu après coup.
Oui, complètement. En fait, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que ce passage, entre guillemets, de la 2D à la 3D,
ouais,
parfois,
ouais.
Il peut être un peu brutal. Alors, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs, en général, le faire assez rapidement. Et on dit toujours, on encourage les gens à se rencontrer, de ne pas trop parler. Mais parfois, il y en a qui se parlent pendant des mois, des années. J'ai rencontré là des mecs qui s'étaient rencontrés sur Call of Duties. Pendant un an, ils ont joué sur Call of Duties. Ils sont tombés éperdument amoureux au bout d'un an, tu vois, sur un jeu vidéo. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment
J'ai jamais entendu ça.
Ouais,
des gens qui se sont rencontrés sur un jeu vidéo en ligne.
Plein.
Ah ouais,
et c'est fascinant parce que d'ailleurs, ils se marient souvent avec un gâteau à l'effigie de leur jeu vidéo. Je te conseille de taper mariage jeu vidéo.
Wedding,
sur
machin.
Wedding.
Il
y en a Super Mario Kart. Bon, c'est un peu moins.
C'est trop bien.
Ouais.
Pour aller un tout petit peu plus loin sur le choix encore. Oui, pour revenir sur. Voilà, c'est ce que disait Pascal. La déception.
Ouais.
Est-ce que cet effet de déception, ça explique cette vague de célibataires? On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, le canal principal pour s'encontrer, c'est les applications de rencontres. On a reçu des filles, un an de Tinder, 4 ans de Tinder. Elles nous ont dit la même chose. On va dans un bar. De toute manière, dans un bar, je le retrouverai ce soir sur Tinder. Donc, on a l'impression quand même que le canal principal, c'est l'application. Est-ce que la déception liée aux applications peut expliquer en partie ou explique en majorité les célibats derrière?
Alors, moi, je pense pas, parce que je pense que déjà, c'est pas le canal principal. D'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes tous... Enfin, je sais pas si vous êtes tous célibes ou pas. Alors, toi, t'es marié, mais il y en a un qui ne les utilise pas. Toi,
j'ai pu utiliser à fond, mais après, j'ai fait des rencontres aussi ailleurs, quoi.
Et donc,
moi, je suis pas du tout anti. Moi, je pense que c'est un non-sens de dire on est pour ou contre, parce que je pense que c'est juste un outil.
Mmh.
Et en fait, ça exacerbe des caractéristiques, pas des caractéristiques, mais des comportements, en fait. Il y a des cons qui sont du coup bons sur les applications, enfin, qui restent cons, et il y a des gens qui sont sympas et qui sont bien et qui restent bienveillants sur les applications.
Mais
ça, c'est mon avis. Hein,
ouais,
mais... En effet, en ce moment, vu la situation en plus et vu, en fait, tout le monde les utilise et tout le monde les utilise de plus en plus. Et on arrive même à une situation où les gens, en fait, quand ils se rencontrent dans un bar, en fait, ils vont se dire, je vais préférer pas lui parler. On a eu ça.
Ouais,
on a eu une auditrice, une invitée qui nous a dit, j'ai vu un mec et en fait, je me suis dit, tiens, je vais le swiper, quoi, plutôt que d'aller lui parler.
Et ça, c'est fou.
Ça, c'est presque un
autre.
Enfin, tu dis, c'est ouais,
moi,
c'est marrant.
Ça m'est arrivé un jour, j'ai vu un mec hyper beau comme ça, je n'osais pas aller lui parler. Surtout quand t'es une fille, parce qu'on t'a toujours dit ne va pas parler au mec, c'est au mec de faire le premier pas, etc. Alors après, aujourd'hui, je crois que c'est, y a quand même la majorité des rencontres se font au travail. Enfin, maintenant, avec le Covid, bon, c'est un peu compliqué sur Zoom. Mais
c'est sur Zoom, ouais.
Donc, c'est peut-être Zoom, qui va être la prochaine appli de rencontre. Mais,
c'est le lieu de travail,
donc,
là.
Le lieu de travail, les amis, ça n'a pas tellement changé. Tu vois, avant, c'était. Bon, avant, les femmes ne travaillaient pas, donc c'était plutôt le bal, c'était les voisins.
Avant, comme tu le dis dans ton livre aussi, elles rencontraient quelqu'un, elles étaient mariées 6 mois après. Hein.
C'est ça, globalement, on n'avait pas un très gros délai.
Tu gardais jusqu'à la fin de ta vie, quoi.
Voilà, donc il ne fallait pas trop réfléchir trop.
Ouais.
Pas trop le temps, mais c'est vrai que donc en tout cas, je pense que ça fait partie quand même. C'est vrai quand tu regardes les chiffres du célibat et que tu regardes comme par hasard, c'est exactement lié à l'arrivée des applications de rencontre en 2010. Alors donc disons que ça entretient, je pense, mais je pense qu'il y a aussi le phénomène du fait que les femmes prennent leur indépendance de plus en plus et du fait qu'on est obligé maintenant de se rééquilibrer. En fait, on est un peu perdu aussi après le MeToo, on va dire. On sait plus qui doit faire quoi. Les femmes avant, elles étaient obligées de rester au foyer, maintenant elles ont pas forcément envie, tu vois. Et donc les femmes aussi n'ont pas forcément envie d'être en couple. Et ça, c'est un truc complètement nouveau, les femmes se dédomestiquent. Et alors, je sais, il y a une féministe qui disait d'ailleurs très bien, elle disait, le Le jour où les femmes prendront leur indépendance financière, il va y avoir une période de latence dans l'humanité où hommes et femmes vivront pas ensemble. Donc alors peut-être qu'on en est à cette période de latence où
on va y arriver, tu penses ou...
Ça ressemble à maintenant, non?
Ben voilà. Donc moi je pense qu'il y a aussi de ça quand même beaucoup. Tu vois, on peut pas tout mettre sur les applis de rencontre qui sont aussi un outil qui vient répondre à une demande. Et donc s'il y a une demande, c'est qu'il y avait déjà aussi à la base. Et puis avec le Covid, bon, c'est quand même heureusement qu'on les a les applis, tu vois.
Après les applis, le but du jeu des applis, est-ce que c'est quand même pas de nous garder célibataires pour qu'on reste sur leurs applications?
Bien donc, sûr. Au final, Mais là ce qu'il y a, c'est que je pense que je me demande ce que ça va être les applis d'après Covid, mais il y a énormément de ghosting sur les applis, c'est un énorme problème. D'ailleurs, OkCupid, alors ils ont tous fait des campagnes de communication récemment en essayant de restreindre, en disant le slow love, etc. Décroissance du love, arrêtez de swiper, vous swipez trop. Mais sauf que les chiffres, c'est quand même 3000 swipes égale un rendez-vous, donc on n'a pas tellement le choix, tu vois, on est obligé d'être dans un rendement. Mais je pense qu'ils vont essayer de... Ils essayent en tout cas déjà dans leur com de réduire le nombre de matchs, etc., parce qu'ils voient qu'on se ghoste de plus en plus sur les applis. Mais moi, j'en suis arrivée à un point où j'ai, je sais pas, mais j'ai des 4000 personnes à qui je parle que j'ai jamais vues, tu vois. Et c'est très, très difficile pour moi d'aller à un rendez-vous.
Sur quelle appli tu es?
Plusieurs.
Tu peux parler à 4000 personnes.
On peut dire toutes. Je suis sur toutes les applis, mais ça fait partie de mon travail. Hein, donc,
j'ai l'impression que l'appli qui pourrait justement arriver un peu à surpasser les autres, c'est celle qui arrive à résoudre ce problème du ghosting. Dans un sens, s'il y a une app qui permet en fait que, je sais pas, qui t'empêche ou qui te sanctionne si tu ghostes trop, je sais pas. Hein.
Alors maintenant, ils essayent, alors ils t'envoient un poke.
Pas qui te sanctionne, mais qui te fait limite.
En fait, il faudrait que l'appli, elle envoie le message à ta place. Tu vois, genre, si tu restes deux semaines sans envoyer de message, l'appli, elle envoie un message bien rédigé qui dit, comme si c'est toi qui l'envoyais, sauf que c'est pas toi qui l'envoyais.
Avec un rendez-vous.
La personne en face est contente, elle a reçu son message de ghosting, et toi, t'es resté ghoster et tu t'en fous, quoi.
Ouais, t'envoie un message à toi, elle te dit, putain, qu'est-ce que tu fous, quoi.
Mais non, parce que là, elle va te culpabiliser, c'est relou. Vas-y, laisse-moi tranquille.
Ouais, faudrait forcer les gens à se rencontrer pour chaque match. Comme ça, ils seraient obligés, tu vas te faire hyper gaffe.
Du coup, parce que si je reviens sur à la fois ce que sont les applis aujourd'hui et ce qu'étaient les rencontres avant, à savoir, par exemple, en remontant jusqu'au mariage arrangé, peut-être qu'on pourrait faire ça, c'est-à-dire l'appli, elle arrange pour toi. C'est-à-dire, elle a tout. Et au lieu de te proposer 3000 swipes, elle te dit, je te propose lui, point barre, fin. Tu vas voir lui et c'est le bon.
Alors, once, ils font un peu ça, mais surtout, il y a un retour du mariage arrangé aux États-Unis. Chez les communautés indiennes, notamment, dont les parents se sont mariés en mariage arrangé. Alors, attention, c'est pas du mariage forcé. Hein. Ça n'a rien à voir avec quand on force une petite fille de 12 ans à se marier avec le voisin parce qu'il a plus de chèvres. Là, c'est quand même des mariages arrangés, c'est-à-dire, on vous présente un certain nombre d'amis. De la famille, 4, 5, 10, jusqu'à ce que vous y en ait un que vous aimiez bien. Et donc, il y a vraiment une demande aujourd'hui aux États-Unis.
Mais c'est les parents qui choisissent.
Et c'est donc, bah oui, parce qu'en fait, la question, c'est finalement, pourquoi donner tout pouvoir à une appli alors que ma mère est celle qui me connaît le mieux? Alors pourquoi, pourquoi elle ne pourrait pas faire ce choix, tu vois?
Moi, je trouve ça bizarre. Si c'est ta mère qui te connaît le mieux, je trouve ça suspect.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est les résultats de ces, d'études qui ont été faites, c'est que les gens, donc les mariages arrangés se séparent moins.
Oui, alors eux, ils partent du principe que comme leurs parents divorcent moins, enfin leurs parents qui se sont mariés par mariage arrangé, en Inde souvent, et c'est des migrants de deuxième génération ou de première, donc eux, ils ont fait des très bonnes études par exemple, ils ont fait des Harvard, etc. Mais ils ont tellement de choix qu'ils voilà, ils préfèrent se restreindre à la famille, à la communauté, revenir à quelque chose de... Bah, toujours ce pot de confiture, tu vois, de ne pas en avoir 40 000 et d'en avoir que 3, comme le café, pas aller chez Starbucks, mais plutôt aller dans ton café de quartier, prendre un jus de chaussette, parce que tu sais que le patron du bar est sympa, quoi.
Mais ça, c'est une stratégie qui fait appel à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut être capable de résister, de pouvoir se dire, je vais pas aller sur les applis, et ça demande une certaine force de caractère qui est, à mon avis, incompatible avec le capitalisme.
Non, mais pas forcément les applis, tu vois, mais c'est même que ce que tu disais, ce choix permanent, où dès que tu te mets en couple, en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, celle-là, elle est pas assez bien pour moi, je suis sûre que je vais aller à une fête, je vais en rencontrer une mieux, elle comprend pas mes névroses. Alors ça, aux États-Unis, ils sont à fond là-dedans, c'est tu te matches par névrose maintenant. Donc, moi, je suis bipolaire, toi, t'es quoi? Premier rendez-vous, c'est ça, hein. Toi, si t'es bipolaire, ça va pas le faire parce qu'on va être tout le temps pas accordé. Tu vas dans nos bipolarités. Par contre, si t'es maniaque, tu vois, surtout les tocs, ils ont plein de tocs là-bas. Ils adorent ça, les tocs, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, si t'es maniaque, ça va. Enfin bon, voilà. Donc, on en est là. Mais,
Un deuxième truc sur la question du choix, c'est, t'en parles dans le livre, c'est la wishlist.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qu'on a vu beaucoup, nous, dans les épisodes. C'est, nous, on appelle ça les cases à cocher.
Ouais.
C'est un peu, il me faut un mec qui soit beau gosse, qui ait un bon taf, qui machin, qui fait les bonnes études, qui joue au tennis, qui machin, qui s'habille en costard ou machin. Et ça, on a l'impression que ça, c'est le deuxième truc. En fait, c'est le truc important. C'est qu'aujourd'hui, on arrive avec une espèce de liste à cocher. Et en fait, si on remplit pas toutes les cases, en fait, on a tellement de cases que du coup, on risque pas vraiment de les remplir.
D'ailleurs,
on a besoin de swiper beaucoup.
J'aimerais bien savoir quelles sont vos cases.
Nous, justement, on n'a pas beaucoup de cases.
Moi, j'ai aucune case. Enfin, j'essaye de pas avoir de cases parce que j'aime trop la surprise. Mais non, mais parce que ce que tu dis me fait penser à cette superbe phrase de ton livre, page 58, à trop chercher la compatibilité parfaite, nous sommes devenus les comptables de l'amour.
Ouais.
Et c'est vrai que...
Qu'est-ce que ça veut dire, exactement?
Ben, en fait, on compte et on enlève des points, tu vois. En fait, on a notre... on devient comme un peu des... On fait des pénalties, tu vois, genre... comme au foot, quoi. Ah non, attends, il a pas ça. Non, mais c'est horrible. Mais ouais, parce qu'on se dit, bon, il faut ça, ça, ça. Alors après, c'est pas forcément conscient, tu vois. On n'est pas tous... On n'a pas tous la wishlist parfaite.
Toi, t'en as une, toi, de wishlist?
Moi, j'en avais une. Je crois que j'ai mis dans mon livre. Je crois que c'est bienveillant... truc de base, hein. Généreux, bienveillant.
Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment...
déjà, tu sais même pas quand tu rencontres quelqu'un au début.
Si généreux, tu vois assez vite quand même. Bienveillant, autodérision, j'ai dans ma truc, et j'ai... Enfin, j'en ai quatre, tu vois.
Pareil, l'autodérision, comment tu le vois?
Parce que, par exemple, tout de suite.
Ouais, mais moi, je suis un exemple où moi, je me trouve...
extrêmement
chargé d'autodérision. je suis ma première victime. Mais je peux rencontrer quelqu'un qui va me dire, mais en fait... ce qui, pour moi, est de l'autodérision, elle va le dire, mais c'est un manque de confiance en toi parce que tu te vannes trop, parce que tu...
complètement.
Tu vois, oui, mais du coup, ça, au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, t'es dans cette image. Donc, on a le signal que j'émets est différent du signal que tu perçois. Donc, du coup, comment ça marche puisque
et puis, comme je dis, par exemple, je crois que je cite notamment les personnes, les humoristes. Ils ont découvert que les humoristes sont en fait complètement névrosés et qu'ils sont bipolaires à moitié tous. Et donc, ils ont des passages où il ne faut plus du tout de blagues. Donc, imagine, tu cherches quelqu'un qui a des blagues, qui fait des blagues. Les trois premiers dates, c'est comme on est, tu vois. Quand on drague, on fait plein d'efforts et tout. Après 3 ans de vie commune, surtout sous Covid, je pense qu'on ne fait plus moins de blagues ou j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on est...
L'humoriste, il est sur scène. Enfin, dans la vie de tous les jours, il faut se recharger, il faut...
Ça, et en fait, ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est qu'on est tout et son contraire. Et moi, ça, je suis persuadée qu'on est en plusieurs dimensions. Et...
Ah, ça, je suis assez d'accord. Et moi, j'ai l'impression que dans les recherches, on recherche souvent quelque chose d'assez monolithique et qui va à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'on est tout et son contraire, mais dans le cadre de la recherche de son partenaire, on attend de son partenaire qu'il soit une seule chose.
Le contraire ?
En tout cas, le contraire. Mais c'est marrant parce que oui, tu parles de l'humour qui revient. C'est un sujet qu'on a constaté. On a beaucoup abordé. Je pense que au fur et à mesure où on l'a abordé, on a d'abord constaté que c'était quelque chose qui revenait souvent, mais en fait, c'est pas la caractéristique principale. C'est-à-dire que tu peux être drôle, mais c'est quand même pas toi forcément avec qui ça va.
Ça va matcher, quoi.
Oui, parce que le vrai critère derrière la blague, c'est quand même de l'attirance.
Oui. C'est-à-dire que si t'es drôle, mais qu'il n'y a pas d'attirance physique, ça marchera pas, quoi.
Ça marche pas.
Et l'attirance, c'est encore aussi subjectif parce que, évidemment, les premières fois, tout est attirance, mais. Après, on a moins cette attirance, tu vois.
Tiens, parlons-en un peu, parce qu'on a parlé de la rencontre. Mais pour aller jusqu'au célibat, il y a quelques étapes entre les deux. Parce qu'il y a la rencontre, il y a le fait de se mettre en couple et d'avoir un... Mais le passage entre les deux aussi, il y foire. Le moment où on doit s'engager.
Alors, en fait, c'était quoi ta question?
C'était ça.
C'était question piège.
C'est qu'au-delà du date, il y a un moment où il faut commencer à apprendre à se comprendre, à se connaître, pour aller vers un couple.
Aller ensemble, ouais.
Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que donc, c'est un peu, je pense, le challenge qui arrive maintenant. C'est que là, maintenant, on avait tout ce choix, cette liberté qu'on a pris depuis nos parents, nos grands-parents. Mais là, le challenge, c'est aussi de se comprendre émotionnellement, tu vois. Et donc là, je pense notamment aux demisexuels. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, c'est quoi
ça ? C'est une nouvelle catégorie. Donc, j'ai une copine qui m'a avoué ça l'autre jour, elle est demisexuelle. Et donc, c'est des gens qui ont besoin de fréquenter l'autre pendant 6 mois, 1 an, avant de pouvoir avoir de l'attirance pour cette personne. Mais c'est un vrai truc, hein. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'attirance globale, en général, pour les... Enfin, ou ils. Enfin, ça peut être un homme ou une femme, hein. Et il leur faut énormément de temps avant d'avoir une attirance. Et donc ça, c'est pas mal parce que donc ça, c'est donc quand même un nouveau courant chez les jeunes, donc qui n'arrivent plus à avoir de désir pour l'autre à partir du moment où ils n'ont pas une connaissance absolue de l'autre, quoi. C'est assez fascinant parce que je me demande si c'est pas aussi un effet, tu vois, qui se coule de ce choix, tu vois, qu'on a eu et où maintenant les gens, on n'arrive plus à, tu vois, à s'engager émotionnellement, donc ils préfèrent ne plus du tout avoir de désir, quoi.
Ah, c'est étonnant, ça.
Ouais. Est-ce que c'est pas une résultante aussi d'un trop, enfin, justement, de ce truc, trop de choix, tu le choix, et aussi trop de relations, trop, peut-être trop de relations sexuelles facilement, et en fait, au bout d'un moment, ça dévalorise complètement le.
Alors après, on a quand même de la chance, tu vois. Enfin, moi, je dis toujours, on se dit toujours, est-ce que c'était mieux avant, tu vois, le truc un peu réac. Alors oui, tu peux te dire, ah oui, mes grands-parents, c'était génial, ils s'engueulaient, mais ils avaient cette sécurité, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, il y avait quand même énormément de gens pour qui c'était une souffrance aussi. Les femmes ne pouvaient pas partir. Oui. Donc moi, je dis toujours, le choix, au final, c'est quand même mieux. Enfin, tu vois, de pouvoir choisir ta destinée, ou pas faire le même métier que ton père, ne pas. Enfin, en fait, à la fois, c'est une énorme liberté, mais ça demande une énorme responsabilisation. Et pour ça, il faut comprendre, en fait, tous les mécanismes, et il faut comprendre que notre responsabilisation doit être prise. C'est-à-dire, faut pas faire de peine aux autres. Si t'as envie d'être dans une période de célibat folle, ou t'as envie d'avoir plein d'expériences, il faut que les autres en face soient d'accord avec ça, tu vois.
Faut pas leur dire après, quoi.
Faut pas leur dire après, mais en même temps, on sait jamais ce qu'on veut vraiment au moment où on l'a, tu vois. Donc, c'est tout le problème. Oui, on est trop gâtés, quoi.
C'est toute la problématique aussi, quoi.
Le problème, c'est pas la nature humaine, là.
En fait, c'est ça. C'est l'humain en général, avec un grand H.
C'est trop le bordel, en fait.
Chez les animaux, c'est plus simple. Mais non, parce que chez les animaux, il y a des trucs incroyables. Genre le pingouin.
Il y a de la séduction à fond.
Pingouin qui revient tous les six mois vers la même partenaire. Il part à l'autre bout de la banquise, il revient six mois après, il retrouve exactement la même partenaire.
Bah ça, c'est comme les
mais attends,
les
femmes, il part faire quoi
parce que pendant que la femelle couve ou est enceinte, il part faire chercher la nourriture. Je connais pas exactement.
Il va pêcher d'autres pingouins ou.
Il va pas pêcher d'autres pingouins. Non, il est assez fidèle. Non, c'est ça qui est dingue.
Le pingouin est monogame.
C'est ouf.
Avec les autres mecs, tu vois.
Ah oui, il part
entre mecs.
Il va faire un EVG.
Boys Club, ouais.
Tiens. Ouais, c'est le Boys Club.
Mais après, je crois qu'il couvre les enfants. Donc, il revient au foyer. Donc, et il faut plus de taf que la femme. Donc,
c'est bien. C'est un bel exemple.
Ah oui, donc ça, c'est un peu la morale de l'émission aussi. Le pingouin, c'est un modèle à suivre.
On
va regarder ça plus en détail, ouais.
Y a un autre élément de ton livre. À un moment, tu dis que la séduction s'inscrit dans un registre intellectuel plutôt que sensoriel.
Oui, parce qu'en fait, on se pose tellement de questions et on veut tellement le mieux pour soi. Et en fait, on lit... Non, mais moi, ce que je trouve fou, c'est aujourd'hui les astrocompatibilités. Alors, j'ai plein de copines ou de copains qui demandent leur signe avant, savoir si les deux signes astro marchent. Et en fait, ça, c'est vraiment, ça prouve, j'ai rien contre l'astrologie, je trouve ça super, mais ça prouve qu'on n'arrive même plus nous-mêmes à se rendre compte si la personne en face de nous est bien pour nous ou pas, tu vois. On est obligé de passer par un signe astral ou tous les autres trucs, le tarot, la validation par ses potes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, avant, on avait une rationalisation extrême, c'est-à-dire c'était les parents qui choisissaient et toi, tu choisissais quasi pas. Tu vois, c'était la validation des parents. Si les parents étaient OK, c'était d'ailleurs quelqu'un du même milieu que toi en général, tu pouvais pas faire des folies non plus et te marier avec quelqu'un qui était pas ton milieu. Maintenant, comme t'as tout ce choix et que c'était le seul libre arbitre, eh ben, c'est beaucoup plus dur de savoir ce qui est bon pour toi.
Donc la rationalisation, c'est celle de l'astrologue aujourd'hui.
Donc la rationalisation peut être celle de l'astrologue, mais en fait, quand je dis intellectualisation, je dis pas rationalisation. Donc intellectualisation, c'est-à-dire qu'on passe par les méandres de notre cerveau pour...
C'est dû à quoi ça? Ça veut dire qu'avant, on se laissait aller, on se laissait guider, on disait, bon, bah, papa et maman, ils ont choisi Jean-Michel pour moi, donc c'est bon, j'y vais. Et aujourd'hui, comme on est, nous, face au choix à faire, et on sait que c'est très difficile de faire un choix, il y a beaucoup de gens qui sont dans la capacité de le faire, du coup, on ne le fait pas et on se raccroche
on
à d'autres choses.
Mais on se raccroche.
Astrologique.
Non, mais on le fait.
Mais est-ce qu'on fait vraiment le choix si, par exemple, on se rencontre, nos dates de naissance, elles vont pas correspondre parce que j'ai décidé d'aller voir Astro Machin qui me dit toi, t'es pas faite pour être avec un taureau, donc.
Oui, alors, même si on voit que c'est pas compatible, on va quand même y aller, hein, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va quand même...
C'est vrai, tu as raison, on va y aller.
C'est pas compatible, c'est pas grave, c'est un taureau, je vais réussir à... Je sais pas, j'ai une partie de taureau en moi, je sais pas.
Je vais le changer, lui. Mais quand tu parles de la validation des potes, c'est intéressant, parce que ça, tu penses que ça a pris une place très importante?
La validation des potes, hyper importante. Et puis, t'as le fait qu'aussi, maintenant, on a tellement tellement des super potes que parfois tous nos partenaires nous paraissent moins sympas que nos potes. Alors après on se dit, oh non, quand même mes potes sont vraiment plus sympas. Alors du coup après on finit par ne plus s'engager parce qu'on se dit, bon, finalement, effectivement, j'ai plein de potes qui sont super. Donc là je dis, bah dans ce cas, sortez avec vos potes. Enfin, c'est aussi simple que ça.
Allez pécho vos potes.
Non, mais ça par contre, le pote, moi je pense que c'est vraiment l'avenir. Enfin, je dis, tirez toutes les ficelles de vos potes, là, en sortant du Covid, tous les célibataires qui nous écoutent.
C'est l'avenir du bang.
L'avenir du bang, c'est prenez c'est tous vos potes que vous adorez et allez à des fêtes avec ces potes-là. Et ces potes ont forcément des autres potes qui sont comme votre pote. Et voilà. Mais. Ouais. Mais
Ah oui, donc le retour des soirées, bah, ça tombe bien. Nous, de toute façon, dès que le Covid est fini, on va refaire notre soirée. Ouais. Et puis les gens pourront venir se pécho à cette soirée.
Très
quoi.
Bonne idée.
Tu pourras venir hein, si tu
moi,
veux.
Moi, je suis en couple là, en ce moment. Donc,
ah, pardon.
Viens avec ton partenaire.
Il sera très content, ouais, je pense.
Vous devez bien avoir des potes célibataires.
Plein.
Ah bah voilà. Faut venir avec eux.
Faut venir avec eux.
On a eu des invités. Je pense à Sarah qu'on a reçue dans la hotline.
Oui.
Et moi j'ai découvert que derrière le célibat il peut y avoir beaucoup de tristesse aussi. Parce que elle avait pas ce qu'elle voulait. Elle avait raté les étapes importantes et tout. Et avec ce podcast qu'on fait, j'ai découvert ça. J'ai découvert que ben Sarah et j'imagine beaucoup d'autres parce qu'on a eu plein de messages derrière. Qu'il pouvait y avoir beaucoup de tristesse, voire peut-être de la détresse. C'est un cas isolé ou est-ce qu'il y a, en fait, derrière ce côté ouais, je date, machin et tout, il peut y avoir est-ce qu'il y a des gens en détresse comme ça?
Bah, déjà, il y a une discrimination au célibat qui est incroyable. Enfin, je la dénonce beaucoup dans mon livre, surtout chez les femmes, puisqu'il y a toujours un peu cette femme à chat. Alors, quand on a 25 ans, non, mais quand on a 35, 40, et d'ailleurs, on se rappelle la fête des Catherinettes. Ouais. Tu vois, on devait forcer les femmes à mettre un chapeau jaune et vert. Bonjour l'angoisse, les deux couleurs qui vont le moins ensemble. et à défiler dans la rue pour trouver un mec. Tu vois, c'était à 25 ans à l'époque, parce qu'à 25 ans, c'était déjà trop tard. Et dans les villages, elles étaient considérées comme complètement périmée, on pensait qu'elle pourrait plus avoir d'enfants et tout, on savait pas trop comment ça marchait. Et elle devait rester après comme esclave de leur famille ou rentrer dans les ordres. Sympa le choix. Voilà. Et donc en général, voilà. Bon. Mais il y a donc cette tradition où l'homme était plutôt vu comme un donjon, l'homme qui restait célibataire, ou alors comme un intellectuel, tu vois, un dandy un peu. Donc, je pense qu'il y a encore une pression. Il y a une pression aussi sociétale, dans le sens où aujourd'hui, le couple est toujours quand même la norme, même si, en fait, c'est beaucoup plus normal d'être célibataire. Et je le dis, je le redis, si vous êtes célibataire, c'est normal, vous êtes dans la norme. C'est plutôt les couples qui sont anormaux, dans un sens.
Tu parles en nombre de... par rapport à la statistique.
Voilà, par rapport au fait qu'on maintenant, on ne reste plus avec la même personne. Donc, on a forcément des périodes de célibat dans sa vie, enfin, plus. Et il y a vraiment une tristesse parce qu'on croit que c'est mieux d'être en couple, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on va être amené à être célibataire, donc qu'il ne faut pas le voir comme une tragédie, ni comme un
fardeau.
Un fardeau ou comme quelque chose qui fait qu'on est anormal par rapport aux autres. En fait, c'est tout à fait normal. Et il faut d'ailleurs que la société, moi je pense, reconnaisse ça. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi les gens qui sont en couple payent moins d'impôts que les gens qui sont célibataires. Tu vois, genre, il y a des trucs comme ça, tu te dis, bah non, je vois pas pourquoi nous, on doit avoir un coût de la vie qui est plus élevé. Quand t'as un loyer tout seul, bah tu payes deux fois le prix. C'est beaucoup plus dur de louer un appart, d'avoir un prêt, etc. Donc déjà, économiquement, ta condition n'est pas reconnue. Et vu qu'on est de toute façon dans des mondes où l'économie a pris une telle importance que ça nous fait une pression permanente. Et c'est vrai que moi, je dis, c'est génial de pouvoir aussi expérimenter, en fait. Et c'est comme le café. Une fois que tu as choisi ton bon café au Starbucks et que tu es content avec, tu vas avoir plus tendance. Alors ça, c'est une nouvelle étude qui est sortie. Donc, je dis, c'est une étude pleine d'espoir. Ils se sont rendus compte que les gens qui se mariaient par un site de rencontre finissaient par être plus heureux que les couples normaux. Alors, je sais pas, c'est pas un site de rencontre qui a fait l'étude.
C'est génial, ce genre d'étude.
Donc, ça veut dire que finalement, la conclusion...
Qui a financé l'étude, c'est Tinder.
C'est pas Tinder qui a financé l'étude. Je crois que c'est une grande université. Alors, je sais plus laquelle j'ai mis dans...
Il faudrait savoir ce qu'ils entendent par bonheur aussi.
Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire on va avoir plus de temps pour expérimenter, mais en fait, c'est une chance. C'est-à-dire, prenez-le comme une chance d'apprendre quelles sont vos failles aussi. En fait, on dit toujours, le mec d'avant, il va nous apprendre qu'est-ce qu'on veut pas dans le mec d'après. Et moi, je dis toujours, c'est vrai que souvent, la personne ou la fille d'après, la personne qu'on sort avec qui après, on essaie toujours de prendre quelqu'un qui n'était pas comme celui d'avant, tu vois. Jusqu'à finalement arriver
à...
On affine un peu le tir et tout, et voilà.
On affine, donc l'objectif, c'est quand même de trouver quelqu'un avec qui on reste.
Parce que la finalité du truc,
tu vois, est-ce qu'il y a une finalité dans tout ça? Oui, quelle est-elle? Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est celle qu'on nous a vendue depuis toujours.
C'est ça, sauf qu'en fait, il y a deux générations, l'amour n'existait pas. Tu vois, en fait, eux, ils ne se mariaient pas par amour, ils se mariaient parce qu'il fallait se marier. Et s'il y avait amour, après, bah, tant mieux. Mais il y avait parfois, c'était plus un partenariat domestique. Donc, on nous a vendu aussi cette truc de l'amour qui est très hollywoodien, de tomber amoureux, d'avoir cette espèce d'extase permanente. Mais moi, je trouve que c'est un peu... je suis pas sûre. En fait, on est en train de devenir très romantique. Enfin, ça, c'est un peu ma théorie. C'est que je pense qu'à force d'idéaliser l'amour... alors, il y a beaucoup de gens qui disent non, Tinder, les relations, on est en train de devenir l'amour cru et tout. Mais moi, je dis c'est plutôt l'inverse. En fait, on est tellement dans une recherche, dans une quête amoureuse qu'on est un peu des espèces d'Alfred de Musset. On est prêt à tomber amoureux de gens qu'on n'a jamais vus. On est prêt à... On est souvent d'ailleurs amoureux de ceux qui ne nous aiment pas. Donc,
On en a eu d'ailleurs.
Ouais, ah oui. Des gens qui tombent, enfin,
ils tombent amoureux alors qu'ils n'ont pas encore rencontré la personne.
Ils ont juste fait des swipes, des conversations. Et
ce qui est tout à fait possible, tu vois, enfin, moi, je pense. Et après, c'est juste à nous, peut-être, de justement rationaliser aussi tout ça, sans trop l'intellectualiser. Enfin, c'est toujours le problème, tu vois. C'est comprendre tous ces mécanismes et peut-être. Parce que je pense que si on est trop romantique, on est toujours malheureux, tu vois. Tu vois, tous ces poètes-là, à la fin, ils finissaient quand même par se suicider ou par... ils écrivaient des lettres comme ça. Alors, à la fois, c'est très beau, c'est sublime, mais en même temps, finalement, l'amour, c'est aussi un truc concret, je pense.
Mais toi, du coup, tu penses... justement, c'est une question, ça, c'est... Est-ce que tu penses qu'on peut être heureux, est-ce qu'on peut être heureux célibataire comme on pense qu'on peut être en couple? Parce que c'est vrai, comme tu dis, Connie, on a ce, nous, en tout cas, dans notre génération, et ça fait en gros 50 ans, qu'on pense que, en fait, l'amour, ça passe par le couple, forcément.
Oui, alors déjà, non. Alors, tu vois que maintenant, les couples essaient de plus en plus à ressembler à des célibes. Tu vois, maintenant, genre, Gwyneth Paltrow ne vit pas avec son mec, ils se voient que deux jours par semaine, tu vois. Parce qu'ils veulent garder ces espèces de trucs qu'il y a au début de l'amour, où on est toujours indépendant.
On se voit une fois
alors,
de temps
ça,
en temps.
C'est sûr que Gwyneth Paltrow, elle a les moyens de le faire. On n'a pas tous les moyens de vivre séparés et tout. Mais, ta question,
c'est... Donc, ma question, c'est de dire, est-ce que, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être heureux? Parce que, pour rebondir sur le témoignage dont parlait Connie, on reçoit, nous, beaucoup d'appels et de témoignages de jeunes femmes ou de femmes qui nous disent, voilà, j'arrive pas à être en couple, je suis célibataire, mais c'est la merde, je suis hyper triste, je suis en détresse, en gros. Et en même temps, toi, dans ton bouquin, tu dis, c'est la norme. Et en fait, il faut se préparer à ça parce qu'on est de plus en plus célibataire. Ouais. Et en plus, c'est finalement, c'est peut-être pas si grave et on peut être heureux.
La solitude, donc, c'est aussi génial, mais en fait, il faut pas la subir.
Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça? Et finalement, qu'est-ce que nous, on peut dire à une Sarah? Alors peut-être que Sarah, en l'occurrence, elle a vraiment envie d'être en couple et elle le sera peut-être.
Et elle le sera, parce que si elle veut...
Et qui seront heureuses aussi.
C'est comme trouver un boulot aujourd'hui. On ne le trouve pas tout de suite en sortant de l'école. Ça peut nous mettre 10 ans, surtout nous, tu vois, nous qui sommes journalistes, où on peut avoir des piches pendant des années avant d'avoir un boulot. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément envie d'avoir un CDI, en fait. C'est ça le pire.
Je pense qu'un CDD, c'est pas mal en amour.
CDD, déjà. Si tu peux avoir un CDD.
C'est carrément l'intérim, toi. L'intermittent,
c'est parfait.
Déjà, si tu as des piches, t'es déjà vraiment content, tu vois. Ouais. Donc, profite de tes piches. Non, mais donc, déjà, voilà, il faut juste se dire que c'est normal. Nos parents n'étaient pas comme ça. Nous, on est comme ça. Donc, il faut le comprendre. Mais surtout, l'amour à deux ou à un, enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre l'amour comme le truc numéro un. Il faut qu'on ait, il faut avoir des passions. Et en fait,
la passion
et le bonheur de faire des trucs qu'on aime. Vous, c'est votre émission, votre podcast, c'est ça qui vous fait
être ensemble.
C'est de se marier avec ses potes.
C'est être ensemble.
Et je pense qu'une fois que tu as découvert, alors j'ai un copain qui disait toujours ça, moi je trouve ça très beau, c'est une fois que tu as trouvé ta passion dans la vie, l'amour, il vient tout de suite.
Alors il y a une autre question derrière aussi. C'est une belle. Qui se pose moins souvent, c'est la question de faire des enfants. Parce que il y a la question de cette saloperie d'horloge biologique là,
mais qui est en train de complètement changer, hein, parce que les femmes dans 10 ans on leur fera une prise du sang et on pourra créer une cellule souche pour faire un nouveau site. Donc en fait, nous, dans 10-15 ans...
Avec un petit robot qui sort à la fin.
Non, mais en fait, on peut faire un spermatozoïde à partir d'une cellule de ton bras et pour nous, un ovule. Donc ça, ils savent déjà le faire. Donc j'ai interviewé quand même des mecs dans les labos à UCLA qui m'ont raconté qu'ils bossaient sur ça. Et ils me disaient que dans 10-15 ans, ménopause, pas ménopause, on n'en aura plus rien à faire parce qu'il suffira juste de faire une prise de sang.
On pourra faire des bébés sans Ken.
Bah, sans Ken.
T'es en train de dire que les femmes n'auront plus besoin des hommes pour faire
des enfants. On peut déjà ne pas Ken. Enfin, je veux dire.
Ça peut devenir la norme si ça devient plus
bang.
Facile. si c'est de plus en plus facile, voilà, tu vois. Et il va y avoir la facilité de se dire, j'ai pas besoin d'être en couple, j'ai pas besoin de rien puisque.
Exactement.
Je peux me faire prendre
et donc
une cellule,
c'est tout le problème de l'individualisme forcené, c'est qu'à un moment on va avoir le choix de ne plus se mettre en couple pour les enfants. Mmh. Et ça va encore ébranler la société.
J'ai bien entendu qu'il n'y a plus besoin d'hommes pour faire des enfants.
Bah, ni d'hommes, ni de femmes, parce que toi, tu pourras aussi...
Aussi à partir du...
En fait, à partir d'une cellule, tu fais un spermatozoïde.
Non, je pense, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il faut une cellule féminine pour... Enfin, je crois, on ne peut pas faire une cellule féminine à partir d'un mec.
En fait, ça, ce sera pour dans 10 ans, mais dans 20 ans, on pourra.
Alors, probablement.
Là, ce sera encore autre chose.
D'accord, mais moi, il y a aussi un autre aspect au-delà de la formation du foyer, c'est que c'est vrai qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus rudes. Mmh. Et est-ce que le fait d'être seul pour affronter ça, c'est dur en fait.
C'est hyper dur.
Et c'est pour ça qu'aussi qu'il y a cette notion de couple vient aussi dans ça, c'est-à-dire que dans la société qui est dure, comme tu le disais, c'est dur d'avoir un crédit seul, d'avoir un loyer, un grand appart seul. Donc du coup, il y a aussi cette notion de couple. Qui vient pas forcément avec l'amour, mais qui vient avec ce côté, on sera peut-être mieux à deux pour faire ça, quoi.
Ouais, et ça, c'est hyper intéressant. Je lisais hier une étude au Japon qui disait que quand le Japon va bien, il y a plus de divorces, et quand ça va mal, les gens se remettent en couple. Le taux de divorce D'accord. sont liés, en fait, aux conjonctions économiques. C'est D'accord. hyper intéressant, parce que finalement, quand ça va mal, on a en effet plus besoin de l'autre...
Mais du coup, ça veut dire que ça va bien si tout le monde est célibataire, alors ?
Je pense que c'est...
Non. Ouais. On va réavoir une... Ça peut peut-être s'inverser. Alors, si on considère que tout va mal...
Divorce, donc, c'est pas vraiment taux célibat, taux de divorce. Mais après, les gens se marient moins aussi. Donc, mais c'est vrai que la communauté est hyper importante. Mais après, ta communauté, maintenant, tu la trouves sur les réseaux. Tu peux passer des semaines à discuter avec tes potes sur des réseaux. Alors... Bon, moi, c'est vrai que je préfère être dans une pièce avec des gens, mais bon, vu que là, en ce moment, on n'a pas vraiment le choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Covid va recentrer, je pense, les gens vers un truc noyau, tu vois, un peu. On perdra peut-être moins de temps avec... On y aura peut-être quelque chose comme...
À l'essentiel, sur les relations.
Mais c'est vrai que l'isolement, et donc ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années, avant, les gens ne se sentaient pas isolés, les jeunes ne disaient jamais qu'ils étaient isolés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 2 millions de jeunes qui se sentent isolés en France. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'il y a une tendance, en tout cas, que j'ai observée aux États-Unis. Les gens ne font plus de rendez-vous, quoi. Ils ne voient plus, parce qu'ils travaillent tout le temps, déjà. Ils travaillent 150 heures par semaine. Enfin, ils sont vraiment, eux, dans un truc de productivité. Et quand tu deviens obsédé par ta productivité, ce qui va peut-être d'ailleurs être le cas quand on va sortir du Covid, ça va repartir comme en 40, tu deviens aussi obsédé dans tes rencontres. Donc, tu te dis, non, mais lui, il va pas me servir. Lui, est-ce que je peux juste canner avec lui? Peut-être pas. Enfin, tu vois, en fait, il faut pas qu'on passe dans un délire comme ça de productivité parce qu'on va finir complètement seul si on fait ça.
Oui, parce que comme tu dis, dans la productivité, il y a un rapport au temps, c'est-à-dire un date, c'est... comme tu dis, c'est 1h40, une... donc, est-ce que j'ai le temps de... Enfin, est-ce que je serais pas plus productif de 7h40 autre chose,
c'est
quoi.
C'est ça, ou pourquoi je n'irais pas plutôt dans un bar, j'aurais peut-être plus de possibilités.
Ouais. Le ROI sera meilleur.
Le ROI, les BDA.
Une forme d'égocentrisme qui est née quand même. Moi, j'ai souvent entendu de notre génération de dire qu'on était plus égocentrique que nos parents, que nos grands-parents. C'est vrai ou c'est une... Et si c'est vrai, est-ce que ça joue?
Déjà, c'est vrai qu'on est dans une société du désir, beaucoup plus qu'avant. Nos grands-parents, ils n'avaient pas 40 000 produits de supermarché qui essayaient de leur vendre des meufs avec des nibards dans un caddie de supermarché. Tout n'était pas genre de la jouissance du présent, tu vois. C'est vrai que la société de consommation, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit « achète-moi, donc désire-moi ». Et donc, en fait, on est quand même vraiment obsédé par le désir. Et du coup, je pense que ça, ça fait que...
Par le désir et la possession par
donc la possession, mais instantanée. Ouais. Donc on a envie de posséder l'autre. Et moi, je pense aussi que le fait qu'il y ait autant de porno, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste que ça prouve qu'on est dans un besoin de rentabilité. Tu vois, je préfère me masturber pour jouir, et c'est de la jouissance pure. Et c'est exactement ce vers quoi nous amène cette société de jouissance immédiate, permanente.
Tout est à la demande, presque, en fait. T'appuies sur un bouton, bam, ça arrive.
Tu vas sur Netflix, qu'est-ce que tu veux ce soir? Ah bah, j'ai ça, enfin, tant mieux, tu vois.
C'est plus facile de se masturber que de se dire je vais être en relation pour pouvoir avoir des rapports sexuels et éventuellement faire
la... Non, mais c'est vrai, en fait. Donc, c'est juste que c'est plus simple d'aller sur YouPorn plutôt que de faire 3000 swipes, de rencontrer quelqu'un qui va être...
T'es même pas sûr, tu vas te faire ghoster ou machin.
Et qui va en plus, après, te fragiliser émotionnellement parce qu'il va te rejeter, et ça c'est aussi le tout problème aujourd'hui, c'est qu'on est rejeté, on a des chagrins d'amour tout le temps, et on ne sait pas gérer ces chagrins d'amour, tu vois, personne nous a appris quoi.
Et donc on se referme un peu sur soi.
Et on se referme complètement, et parfois on se dit, bon bah ça sert plus à rien, je vais pas re-enchaîner une 10 000e histoire, si c'est pour que ça... Voilà.
On finit sur cette note positive. T'as une dernière question qui envoie du pâté là.
Justement, parce que pour finir, donc moi j'ai beaucoup aimé ton livre, hein, mais à la fin, je trouve que tu finis sur une note un peu négative.
Ouais, un peu tristoun.
Un peu tristoun. Justement, il y a une phrase que j'ai relevée. Tu dis nos liens ont cessé d'être inconditionnels. Et justement, je voulais dire, enfin, savoir, ça voudrait dire que les liens de nos parents, nos grands-parents, tout ça était inconditionnel et qu'aujourd'hui, en fait, on a brisé les liens et du coup, on s'est affranchi de tout ça, mais on est tout seul comme des cons.
Un peu. C'est pour ça que ma conclusion est triste, c'est qu'au final, après toute cette enquête, donc après, le but, c'est quand même de se marrer. Enfin, je veux dire, l'amour, c'est quand même un truc génial. Au final, ce que j'ai ressenti à la fin, et donc je suis obligée de te dire émotionnellement ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait quand même une vraie solitude, une tristesse. Et qu'il faut, le dire, tu vois, que c'est en fait un peu triste ce qui nous arrive dans un sens, de voir tous ces gens qui sont, tu parlais des célibataires, qui sont, en fait, il faut pas que les gens subissent ça. Voilà, c'est ça. Et les solutions, il faut les trouver, quoi.
Est-ce qu'on peut les trouver ensemble?
Eh ben, on les trouve ensemble, c'est ce qu'on est en train de faire, hein.
Autour d'un micro.
Ouais. Voilà, c'est ça.
En écrivant un super bouquin.
Et déjà, si on sait, on est moins...
On est moins con.
Zignard, voilà.
Bon. On est moins perdu.
Ouais. Félicitations pour ton
bouquin. Bravo.
Il a fait l'unanimité ici. Hein.
Et
tous
les auditeurs, on vous le conseille. Ouais.
C'était un vrai plaisir.
On conseille chaudement.
Vrai plaisir à lire, ouais. C'est...
Allez, le plaisir, hein, c'est le plus important.
C'est
le
cœur sauvage, enquête sur le vertige
du choix amoureux. Ouais.
Très bien. Et merci beaucoup. Merci les gars pour cet épisode. Merci France d'être venue. Nous rendre visite.
Un dimanche. Un lendemain de cuite. Merci.
Ça sort vachement bien pour un lendemain de cuite.
Ouais, ça va.
Merci à notre équipe. Merci Mitch. Merci Cynthia qui est à la porte. Il va falloir qu'on aille lui ouvrir. Merci à la web radio Restless qui nous accueille, Pierre et Ben. On vous rappelle que vous pouvez, pour nous aider, partager cet épisode. Ça coûte rien. Vous le partagez. Vous mettez 5 étoiles sur vos applis de podcast. Vous laissez un commentaire sympa, évidemment. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de nous soutenir encore plus, il y a le Tipeee, voilà, avec les bonus, l'épisode un jour à l'avance et d'autres bonus audio. D'ailleurs, on va les enregistrer là.
Oui,
exactement.
Allez, on se retrouve dans un prochain épisode.
Ciao, ciao. Ciao.
Ah, il y a l'outline aussi. On se retrouve lundi dans l'outline.
Voilà.
À lundi alors.
À lundi.
Ciao. Ciao. Ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.